Bienvenue à Pack the Pot, votre clubhouse pour ce Rugby Coupe du Monde 2019. Nous sommes très contents d'être là, nous sommes trois joueurs de rugby, anciens et actuels. Moi-même, je me présente rapidement, donc TK, Terry Kaufman, le mec avec un accent un peu différent. Je suis américain de base. J'ai quand même joué au rugby en faux clos. J'ai commencé avec Charlie Baer qui fait d'autres choses en rugby.
Oui, qui fait d'autres choses, qui fait essentiellement perdre. J'ai fait beaucoup de choses, c'est surtout perdre contre l'ancienne équipe de... par laquelle est passé Théo, qui est avec nous aussi, et qui m'ont mis une branlée aujourd'hui, la CBB. Théo, félicitations à ton ancien club.
Ouais, salut les gars, club de cœur, puisque c'était mon premier club, la CBB, donc avant le,
ah ouais ouais,
avant le défi, le désastre de se faire piquer son stade, le Saut du Loup, par le Stade Français, comme tu le sais. On a vécu une belle chose là-bas, à côté de Bagatelle. Désolé qu'ils aient battu le Massif Central aujourd'hui, mais bravo à eux. S'il y a quelques copains de la CBB qui nous écoutent, continuez comme ça, les gars.
Il y en a. Tu peux leur passer un bonjour.
Allez, donc nous sommes avec Charlie Baer, qui est capitaine de Massif Central, et aussi Théodore de Saint-Rémy, qui a passé par plusieurs clubs, donc aussi notre Racing Man, ancien Racing Man. Nous sommes super contents d'être là avec vous, parce qu'on a pu finalement regarder des matchs de coupe, de ce Coupe du Monde.
Enfin,
ça fait plaisir.
Après deux mois d'attente, hein, depuis qu'on bosse un peu, non deux mois, j'exagère, un mois, allez, un gros mois d'attente, on attendait ça, c'est vrai qu'on est sauté à pieds joints là-dedans, et c'est vrai que ce week-end on a été gâtés quand même, on va pouvoir en parler un peu, franchement on a été gâtés.
Pack de potes, terrain 10.
Donc pour ce premier match Japon-Russie, j'étais très content, j'ai acheté mon petit bento box, et je me suis mis avec mon téléphone pour regarder ce premier match. Donc un peu de surprise au début, parce que quand même le Russie qui mène jusqu'au 39e minute avait un 7-5.
Oui, avec en plus un essai casquette qui a été encaissé par les Japonais quasiment dès le début du match, et sur franchement une action un petit peu ridicule, quoi. C'est-à-dire que techniquement, là, c'était pas du tout au rendez-vous. L'ailier ou l'arrière, je sais plus, japonais qui tape, qui trouve pas la touche, et il se récupère un ballon haut, et le ballon, il tombe 4 mètres à côté de lui. Donc je sais pas ce qu'il a foutu au niveau placement. Et derrière, le Ruskov, il arrive comme un autobus, et il prend le ballon, il marque d'entrée. Donc je pense que ça les a quand même beaucoup refroidi, c'est pour ça qu'ils ont mis un petit peu de temps à se remettre. Et moi, j'étais quand même assez déçu du niveau technique, non pas des Russes, je m'y attendais un peu, mais surtout des Japonais. Je m'attendais à mieux que ça. Et c'est vrai que les deux équipes, ils ont des beaux physiques, mais voilà, je pense qu'au niveau technique, parfois ça fait un peu Fédéral 3, sans du tout faire. Faire ombrage à la Fédérale 3, Charles.
Je l'ai mal pris. Non, mais t'as entièrement raison. C'est vrai que ce début de match, on a senti les Japonais très fébriles. On a, je pense que clairement, ils avaient l'événement sur leurs épaules. Il y a eu sur tous les ballons hauts, tu sais, ils réceptionnaient mal et tout. Enfin, il y a eu des ratés. On se demandait même si c'était.
Et beaucoup de ballons tombés, beaucoup d'approximations. Voilà, moi, j'étais un petit peu déçu pour eux. Je trouve qu'ils sont quand même un peu passés à côté de leur premier match.
Oui, en effet, comme tu dis, moi, les Japonais, j'ai senti au début très fébrile. Il y a eu c'est-à-dire que sur tous les ballons hauts, par exemple, ils ont raté à tel point qu'on pouvait presque penser que c'était voulu. C'est-à-dire que le bloc qu'ils font sauter sur un ballon de réception, derrière, il y avait toujours un mec qui finissait par attraper le ballon. Et on se demandait, est-ce que c'est pas une technique, en fait, de laisser
feinte,
un mec derrière
pour attraper le ballon?
Bref. Une feinte, voilà, exactement. Genre, ils ont un peu bluffé les Russes. Mais en tout cas, on sentait de la fébrilité. Je pense que l'événement leur a vraiment pesé sur les épaules. À raison, hein. Comme les Anglais il y a 4 ans, c'était dur pour eux aussi. L'événement a vraiment pesé sur leurs épaules, et comme tu dis, les Russes, clairement, ils sont un niveau en dessous, mais pendant une mi-temps et 10 minutes, on a vraiment cru que les Russes pouvaient faire le show, pouvaient les rattraper, alors qu'en fait c'était juste le Japon qui s'est foiré, quoi.
Oui, donc au final, je pense que les Japonais, c'est vrai que on va dire que sur le plan esthétique ou sur le plan du rêve, ils ont un peu foiré leur entame, c'est vrai. En revanche, si on fait les comptes, ils ont quand même le point de bonus, parce qu'ils ont bien fini le match. Et dans cette poule qui est quand même relativement serrée, avec les Irlandais qui ont battu les Écossais aujourd'hui, qui n'ont pas pris eux de points de bonus défensifs, le petit scénario où soit le Japon, soit les Samoa peut doubler l'Écosse, est encore possible d'un point de vue des chiffres. Donc,
comptable.
Ouais, oui. D'un point de vue comptable, c'est pas complètement foiré pour les Japonais. Même si je pense que le premier essai de la Coupe du Monde sur une cagade pareille, ça va leur faire mal au casque un peu quand même.
Je pense quand même, on peut dire qu'ils ont eu des très très belles choses de partir de dans le numéro 14 là. C'était quand même magnifique de faire un triplé presque un. Il y a hat-trick et après il y a quoi quand on fait 4.
Alors, pardon. Pardon, moi j'ai vraiment un bémol à mettre sur ce mec qui a fait le lié là, le japonais qui a mis tous les essais. En vrai, les deux premiers, ils étaient cadeaux quoi. Enfin, je le marque, tu vois. Moi, tu me donnes le ballon à ce moment-là, je le mets à l'essai. J'ai mis un essai en 10 ans. Donc, non, mais vraiment. C'est...
Ouais, mais c'est quand même la Coupe du Monde, Charlie.
Oui, voilà. Mais c'est un ailier, le mec. Si tu veux, son taf, c'est d'être à l'aile et d'être appel ballon. Et à un moment, le truc, ouais. Il est sorti super propre. Et pour moi, ça venait plus d'un travail en amont que. Enfin, tu vois, voilà, le mec, il a mis son triplé, mais les deux premiers, c'était. Enfin, c'est un métier, quoi. Si tu le fais pas à ce moment-là, tu ne.
Si tu le fais pas, faut arrêter. Faut changer de sport.
Oui, voilà. Ouais, ou de poste, tu vois. Ou de poste, tu passes au centre, ou je sais pas, tu te démerdes. Mais...
Bon, et on va pas non plus parler de Japon-Russie pendant toute la soirée, les gars.
Non, hein, certainement pas.
D'accord, ouais. Avec moi. Thierry, fais la loi un peu là-dedans, là, faut que ça avance.
T'as raison, il faut que je déblaye un peu les sujets. Allez, on les voit. Est-ce qu'on passe direct à la France? Pourquoi pas?
Ah oui, allez,
franchement, il faut.
On a envie de parler.
La solution!
Donc, ce premier match pour l'équipe de France, on peut démarrer par dire bah, quel beau premier mi-temps, avec vraiment des temps forts, Gaël
c'est dur Ficou, à dire pour un Américain, Gaël.
En forme.
Gaël
Ficou. Il ne faut pas la dire trop en anglais parce que ça semble quelque chose. Donc après, on a Ntama qui a bien assuré au niveau de pied. On a eu des beaux plaquages. En gros, on gagnait super bien, 20-3. Deuxième mi-temps, complètement l'opposé. L'Argentine qui marque deux essais en 10 minutes après ce mi-temps. La France qui risque vraiment à passer à côté de leur match, qui sont menés finalement 21-20. Lopez qui nous fait un drop pour qu'on passe en avance, les deux buteurs français et argentins qui ratent leur dernière occasion. Bah, donc en fait le score reste 23-21, victoire pour la France, mais vraiment de très très peu.
Moi ça m'a rappelé un peu le France-Galles du tournoi Destination où il y a une remontada que à l'époque on n'a pas su gérer. Là c'est pas que c'est de la gestion, mais on peut être chauvin à ce moment-là, on peut quand même se dire putain, on a réussi à la contenir celle-là quoi.
Là je te rejoins Charlie, la très très grosse différence avec ce France-Galles, c'est qu'à la fin on gagne, voilà. Donc c'est ce qu'il faut quand même mettre au crédit des Français, et puis pour tous les supporters de cette équipe qui étaient en train de bouffer leur pain au chocolat à 9h du mat, et je précise que les chocolatines n'existent pas, c'est juste une parenthèse.
Merci, enfin.
Merci quand même, on va rétablir une vérité, mais blague à part, évidemment qu'on est super content. Nous on était en famille avec des copains, les enfants, etc. Tout le monde s'est tombé dans les bras à la fin, on s'est dit on la tient enfin quoi. C'est-à-dire que on a le sentiment que c'est le premier match depuis longtemps où le scénario à un moment tourne à notre défaveur et finalement on réussit à raccrocher le bon wagon. Donc ça je pense que c'est hyper important.
Ou à la fin ça gagne quoi.
Ou à la fin ça gagne, et puis on a un peu de chance aussi quoi.
Toi Montéo, t'étais en famille et tout, moi j'étais en train de shooter le calendrier de mon équipe de rugby, un peu d'idée avec des actrices un peu dénudé aussi, mais pareil.
On mettra pas les photos sur le Facebook.
On mettra rien. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien.
On ne peut pas savoir.
Vous ne verrez rien. Non, mais comme suggérer comme ça. Mais en tout cas, juste pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on s'est tous tombés dans les bras. Évidemment, c'est un truc qu'on attend, une victoire un peu qui compte comme ça, qui libère un peu.
Ouais, alors. S'il faut revenir un peu sur le match en lui-même, c'est vrai qu'ils font une super entame. Très très vite, on a vu qu'ils étaient dedans quand même. Et puis, moi, je suis content parce que ça valide un petit peu mes théories des dernières semaines où les deux essais qu'on marque, il y a Damien Penaud au milieu les deux fois. Donc, il est vraiment le dynamiteur sur la première. Il est dynamiteur sur la première et il fait la passe décisive sur le deuxième. Donc c'est vrai que là on se dit qu'on tient un mec exceptionnel, qui est du niveau, enfin pour moi, c'est le Chelsea Colby français, même si on reparlera après de Chelsea Colby. Mais ça, c'était top. Olivon, impeccable. Même Guirado était bien dans son match. Je vais dire même Guirado, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu moribond depuis du temps. Est-ce qu'il va être capitaine, est-ce qu'il va pas l'être, machin. Là, je trouve qu'il a fait son job. Et d'ailleurs, je trouve que Brunel, enfin le staff l'a sorti trop tôt. Ils le sortent à la 46e. Pour moi, ça rime à rien. Soit tu sors le mec à la mi-temps, soit tu le sors à 55-60. Mais 46e, c'est ridicule à un moment. Je trouve que c'était beaucoup trop tôt.
Le match qu'il a fait, où il est ressorti vraiment, où il a réémergé, est-ce que du coup, ça pourrait justifier un peu les choix stratégiques du staff de l'avoir mis en doute un peu dans son rôle de leader, dans son rôle de capitaine?
Sans doute, ils les ont piqués, et lui le premier. C'est vrai que tous les journalistes, tout le monde se demandait. Et là, avant de rentrer sur ce match-là, il avait à cœur de montrer que c'était bien lui le patron. Et je trouve qu'il a fait le job, vraiment. Et d'ailleurs, il avait un masque quand ils étaient dans le couloir, de ces fameuses images où tu as les mecs qui regardent le stade, et où tu sens. Et je trouve qu'on sent beaucoup des choses dans les yeux des joueurs en regardant ça. J'aime beaucoup regarder ces images. Et j'ai trouvé que les Français étaient hyper concentrés et avaient une forme de stress positif. Et j'ai trouvé que les Argentins avaient un petit air un peu trop sur deux.
Et qui pourtant, eux, gèrent vachement mieux l'avant-match,
ouais,
d'habitude.
Mais tu vois, moi j'ai dit plusieurs fois à mes copains pendant le match, pendant la première mi-temps, deux, trois fois, ils sont en position de prendre des points au pied. Ils choisissent d'aller en touche. Ils ratent des points au pied.
C'est un signe.
Parce qu'ils se sentaient peut-être un peu supérieurs. Ouais. Ils pensaient qu'ils allaient gagner. Et je pense qu'ils sont arrivés un tout petit peu avec le bocal sur ce match-là.
Ouais, ça en dit beaucoup, hein, de choisir la touche.
Et ça s'est retourné contre eux. Et franchement, c'est pas désagréable. Alors c'est vrai que il y a eu une deuxième mi-temps. Voilà, on a parlé plusieurs fois dans ce truc de la culture du trou d'air. Bon, là c'est même plus un trou d'air. Là, je sais pas comment on peut se faire défoncer comme ça sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. C'est complètement improbable.
Moi, à mon avis, il y a eu un discours de Brunel à la mi-temps qui les a mis dans une perte de défaitisme.
Brunel à la mi-temps, c'est pas possible. Il les a mis sous Prozac. Les mecs, ils sont rentrés, ils étaient plus là.
Il leur a demandé de perdre.
Ils étaient plus là. Ils prennent un essai, à la limite le premier des deux essais pénal touche. Honnêtement, c'est très bien joué de la part des Argentins. C'est un bloc de saut, il n'y a personne en face, c'est bien joué. Mais le deuxième, c'est tout en collectif. T'as l'impression qu'ils sont à l'entraînement, les Français, je sais pas ce qu'ils foutent. Là, j'en suis pas revenu.
Ce qu'ils devraient faire, en fait, c'est de bien étudier. En fait, il y a beaucoup de vidéos et ils devaient vraiment étudier le vidéo de Brunel pendant le deuxième mi-temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit à cette équipe, et l'inverser complètement.
De ses discours, ils ont eu les vidéos de son discours. Sinon,
par contre, les Desma à la mi-temps, j'en aimais être dans le vestiaire argentin. Oui. Là, il a dû leur sauter à la carotide. Franchement. Parce que faire une mi-temps comme ça, les Argentins se faire marcher dessus comme ça en première mi-temps, franchement, là, ça n'a pas dû lui plaire du tout.
Est-ce que je peux essayer de faire un petit synthèse comme je ferais pour un ami américain qui ne connaît pas très bien le rugby?
Tu veux dire pour un Américain?
Voilà. Donc, pour moi, c'était un petit peu comme en fait, un mariage. Tu vois, un mariage d'un copain. En fait, au début, c'était superbe. C'était la première partie du mariage. C'était champagne. C'était mythique. On était beau. On était cool. On a fait toujours les bons choix. On a fait les bonnes choses. Et c'était pas forcément facile, mais en gros, la première partie de ce mariage, c'était parfait. Tout le monde nous a adoré. Par contre, on a oublié de manger au repas. On a fait 4 shots de Jäger. Avec des potes d'université. Et en gros, on n'est pas frais. Et donc, on commence à faire des erreurs, des fautes de main. Hein. Et d'un coup, on commence à tout perdre. Et il y avait même un bagarre à la fin. Pour finir, ce qui était bon, c'est qu'on a au moins réussi de rentrer à la maison avec nos clés, avec le portefeuille et tous nos dons. Donc ça, c'est bien. Et on a gagné. C'est victoire, on a gagné, mais ce qui est un peu chaud, c'est qu'il y a beaucoup de mariages à venir là dans les 6 semaines, hein, il y en a beaucoup, et il faut qu'on se tient un peu mieux. Mais bon, on a survécu, moi je le vois comme ça.
Alors, la bagarre de la fin, pardon, mais on va en parler, parce que c'est un événement en soi. Mais
moi, je trouve que c'est une très très bonne comparaison. À un moment, c'est dans le mariage, t'as l'oncle bourré qui prend le micro, tu te dis « oulala, qu'est-ce qu'il va nous sortir ?» Et puis en fait, t'arrives quand même à sauver la mise, mais sur ce match-là, En deuxième mi-temps, il y a trop à dire. On pourrait vraiment passer 2 heures sur le sujet. C'est pas ce qu'on va faire. Mais moi, je suis atterré de voir, par exemple, qu'on n'a pas réussi à contester une touche en deuxième mi-temps. Même, je sais même pas si on a contesté une du match. Mais normalement, dans le staff, on a un mec, Julien Bonner, qui est responsable de la touche. Il faut quand même s'interroger quand on se fait marcher dessus en touche comme ça pendant tout le match. En mêlée, à un moment... Alors c'est vrai, maintenant on peut plus arroser les piliers tricheurs. Avant, à l'ancienne, à l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quand tu avais un mec comme le droitier là, qui se retrouve carrément à plat ventre 3 fois de suite, et tu as l'arbitre qui continue de sanctionner les Français... À un moment, c'est le deuxième ligne qui sort la boîte à gifles et on arrose le pilier droit. Mais là, il n'y avait plus que cette envie, quoi. Mais ça, on ne peut plus le faire. Donc, à un moment, quand en conquête, il n'y a plus rien à ce point, tu te dis, mais heureusement qu'on a les trois quarts qui avaient les cannes. Parce que entre Ntamack, qui a quand même fait un super beau match, qui n'a pas raté de point au pied, sauf la dernière, et il n'aurait pas dû la taper, Lopez était rentré. Moi, j'avais dit à mes potes, il va la louper. Et je voudrais que ce soit Lopez qui la tape. Il l'a loupé. Ensuite, heureusement, il met les deux transformations des coins. Ça nous a vachement mis en confiance quand même. Puis quand tu gagnes que de 2 points à la fin, heureusement qu'il l'a fait. Et puis au centre, Ficou, Vakatawa, ils ont une santé du feu de Dieu. Voilà, Médard, il fait un bon match aussi. Ugère,
alors, pardon, Vakatawa, qui était même pas sur les... Enfin, qui est venu sur le tard hein, dans ce staff France.
Bah, je suis désolé pour Guitoun, hein, mais il va rester en tribune. Ouais. Il va jouer contre les Ricains, mais je veux dire, contre les Anglais.
Le match voilà. Pauvre, tu veux dire. Le match.
Easy now. Ouais.
Voilà.
Allez. Si on essaie de trouver le bon côté des choses, donc tu avais dit quand même, oui, Ntamack, ouais, je trouvais plutôt pas mal pour un jeune. Je pense qu'il était le plus jeune joueur de gagner un match dans la Coupe du Monde de rugby, c'est bien ça?
C'est le plus jeune sélectionné français, en tout cas.
Français, ok.
Non, puis là, il empile aussi, il empile de la confiance pour cette Coupe du Monde et puis pour les suivantes. Maintenant, voilà, il sait qu'il peut résister à des matchs comme ça en étant tout à fait à la hauteur de l'événement. C'est magnifique de se construire comme ça. Ça, c'est
pour
top.
Les suivantes. T'es déjà en 2023, Théo.
Non, mais j'y suis un peu. C'est-à-dire qu'un mec comme ça, il a 20 ans, tu sais qu'il va en faire plusieurs. Voilà, se construire sur des matchs comme ça à cet âge-là, c'est déterminant dans la carrière d'un sportif. Donc, je pense, moi, je suis super content pour lui pour ça. Lopez, c'est plutôt sa tournée c'est son tour d'honneur. Il a foutu un drop de vieille, mais qui nous sauve le match. Ah oui. Et ben, c'est fantastique. Voilà, mais.
Et sur les points positifs, tu me parlais des points positifs. Moi, pardon, les garçons, mais il y a un point positif que je me dois de signaler. C'est moi, franchement, j'ai bandé sur la bagarre de la fin, quoi. C'est très très con, hein. Mais les Argentins, on en parlait la semaine dernière. C'est un peu la bête noire. C'est des mecs, ils sont latins comme nous. Tu vois, on s'embrouille avec eux et tout. Et on se souvient. Attends, c'était quoi? C'était 2016 ou quand ils étaient venus chez nous? 2016 quand ils étaient frités et tout avec Papé, mon ami. Mais on les aime pas, quoi. Et là, cette bagarre de fin, c'était un peu dire, écoute, on a gagné ce match, mais hey, on est là, quoi.
Ça devait chambrer méchamment. Je pense que ça devait chambrer méchamment. C'est forcément parti là-dessus parce que les Argentins, ils avaient l'envie de nous marcher dessus. Quand tu viens perdre d'un point avec la pénalité ratée à la fin, mais... etc., tu as vraiment les boules. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Malheureusement, maintenant... Comme c'est devenu un petit peu aseptisé, bon bah les bagarres elles sont vite coupées par le Real, donc on n'a pas vu comment c'est parti, on n'a pas vu quel est le mec qui a commencé un peu la chicaya. Je suis un peu déçu là-dessus quand même sur le scénario de la bagarre.
On voit plus, mais pour moi ça élimine totalement un pilier du rugby qui est quand même que il y a une explication de texte quand tu.
Mais
veux,
heureusement en Fédéral 3 il y a pas encore la vidéo Charlie, donc ça pour toi c'est ça qui est bon.
alors tu peux, mais je fais une petite dédicace au numéro 5 de la CBB.
Vous êtes échangé quelques politesses cet après-midi?
En vrai, en toute amicalité, quoi. Mais vraiment, hein, on a bu une bière à la fin, on a serré. Lui, mon ami aussi, hein, tu vois, il s'est pas.
Échange de bons procédés.
Il s'est pas privé. Échange de bons procédés, bien sûr. Ouais.
J'avais regardé des conférences de presse après. Et apparemment, Mario, il n'était pas très content avec les arbitres en fin de match. Les Français, pas très contents avec les arbitres au début de match. Il y a pas mal d'échanges là-dessus. Il y avait un moment où les journalistes demandaient que Jacques et Brunel et Guillaume Garrido répondaient à la question. Guillaume répond à certaines questions et après, il essaie de donner la main à Jacques. Et qui le prend pas de tout. Et en fait, c'est un truc, j'aimerais bien que vous regardiez ça, parce que je me dis, il y avait un moment où où je vois sur la tête de Guirado, il dit mais c'est pas vrai. Et en fait, il regarde le public, donc c'est les journalistes. Il fait un sourire comme ouais, ok. Et il regarde d'ailleurs, il est gêné, embarrassé. Ouais. Et c'était vraiment juste dommage.
Tu dis ça comme une anecdote, mais pour moi, ça dévoile énormément de la vie de groupe. Dans les deux années là qu'on a eues, il y a eu des fois où tu sentais sa gêne pour expliquer des feuilles de match qu'il fait. Il n'avait pas l'air sûr de lui, il n'avait pas l'air de savoir ce qu'il faisait. Et pour moi, ça fait complètement partie de la vie de groupe.
On l'a déjà dit, je pense que Brunel, qui a été un bon technicien et qui est incontestablement un mec qui connaît le rugby, on ne peut pas lui enlever ça. C'est pas un leader charismatique. Et donc, les mecs, là, c'est bientôt la fin. Ils se retiennent mais après la Coupe du Monde, sauf si on est champion du monde. Ça va balancer sur le staff, mais ça va être sanglant.
Pour comparer, j'avais regardé d'autres conférences de presse après les matchs. Par exemple, dans le Nouvelle-Zélande, je trouve que le coach, bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire aux presses, c'était assez marrant. Mais par contre, en Australie, on voit vraiment l'équipe super soudée, le coach qui est vraiment en lien avec le joueur qui défend ses joueurs, le joueur qui défend le coach.
Tu as senti ça en conférence de presse
De l'Australie, oui. Mais
les gars, c'est pas un podcast sur les conférences de presse.
T'as raison.
On devrait passer à
autre chose. T'as complètement.
Pack de conférences. Pack de conférences, le retour.
Pack de conférences. Non, alors, t'as parlé de l'Australie, TK. Ils se sont fait peur, les Australiens. Parce que, bon, c'est souvent des scénarios comme ça avec ces équipes-là où on lutte, puis on finit à l'usure par les avoir, les équipes des îles du Pacifique. Mais là, contre les Fidji, moi, il y a un moment, je me suis dit, putain, mais là, j'y crois un peu quand même pour eux. Et finalement, bon, la fin de match a tourné à l'avantage vraiment des Australiens. Mais attention aux Fidji quand même, hein, ils ont une sacrée équipe.
Hein. On parlait au début de ce podcast sur la préparation de la Coupe du Monde, des surprises qu'on a envie de voir, des matchs un peu de nations off, un peu de nations pas B, mais de nations moins réputées qu'on a envie de voir et tout. Et là, c'était typiquement le match que je pense que tout le monde rugby a bandé pour les Fidji pendant une mi-temps, quoi.
Ah ouais, mais c'est-à-dire qu'on a envie à un moment qu'une équipe du Pacifique fasse un gros coup, arrive en quart, voire arrive en demi. Je veux dire, c'est les joueurs du Pacifique aujourd'hui, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de rugby international. Tous les joueurs qui tiennent les boutiques partout dans toutes les équipes, c'est eux. C'est tous des Mélanésiens. Tu regardes, que ce soit en Angleterre, on va parler peut-être un petit peu du match des Anglais tout à l'heure. Vunipola, Tuilagi, enfin les mecs, arrête, hein, c'est pas des mecs qui bouffent du fog à Londres. Hein. Donc à un moment, c'est vrai qu'on a envie qu'une de ces équipes soit récompensée et on est toujours un peu pour eux, quoi. Et c'est vrai que quand ils tiennent la dragée haute à des grosses écuries, on se dit putain, c'est leur jour, ça va peut-être le faire. Bah, putain, c'était pas encore
ça
là.
Viendra.
J'espère.
Ça viendra.
J'espère.
Bon, il y avait aussi le match de la journée pour samedi, Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud.
Ouais, alors là, c'est là, malheureusement, on prend vraiment un coup de rabot dans la tronche quand on regarde ce match-là en se disant qu'on. À part quelques pépites, parce que j'ai dit tout à l'heure que Damien Penaud, c'était notre Chelsea Colby, et je pense que, je le redis, c'est mon chouchou Damien, maintenant que Félix Lambert n'est plus là. Je pense qu'il pourrait jouer dans toutes les équipes du monde, il est vraiment trop bon. Mais ce match-là, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, on se dit qu'on n'est quand même pas invité. C'est-à-dire que sur le scénario, les 25 premières minutes, les Blacks ont quasiment pas touché le ballon. Ils se sont fait rentrer dedans par les Sudaf, mais c'était un truc de fou. Ils ont tenu, et d'un seul coup, deux essais en contre, étaient à la 25e, il y a 17-3.
Le métier,
ils ont touché deux ballons. Métier. C'est un truc de fou. C'était incroyable. Franchement, t'as l'impression que n'importe quelle équipe en face des Springboks, à part les Blacks, t'as l'impression qu'après 20 minutes comme ça, ils sont menés 15-0. C'est pas possible autrement. C'est complètement dingue.
Moi, je pense qu'ils étaient gonflés au bloc parce que c'était un super raca du numéro 9 remplaçant de Isabel Perry Nana, c'est bien ça?
Alors, moi, je supporte pas le haka. On aura peut-être d'autres occasions d'en parler, mais j'en ai ras-le-bol du haka. J'adore les Blacks. Mais le haka,
j'adorais.
Pardon, Théo, t'es à 2-1 là. T'es vraiment à 2-1.
Ouais, okay.
Perry Nana, il était fatigué après. En fait, heureusement, il était pas titulaire parce qu'il va tout donner le haka. Il était, mais fou. Je pense qu'à la fin, il a pris un truc sur la tête pour essuyer, quoi. Il était fou.
Il a tout donné sur le haka.
Franchement, les Sudaf, c'était un plaisir à voir aussi. C'était la gnaque sur le terrain. Ils ont pu presque revenir dans le match, presque.
Ouais, et puis ce qu'on avait dit hein, sur la charnière qu'ils ont, elle est quand même super costaud. Hein. Pollard, il fait un gros match le 10. Faf de Clercq qui s'est fait plaisir aussi, tu l'as vu. Et puis moi, j'ai deux joueurs que j'ai vraiment adoré. Enfin, bon, trois avec Chelsea Nkolbi qui est un oui, funambule. Oui. Il est extraordinaire. Maintenant, le problème, c'est qu'il va tellement vite que parfois, il se coupe de son soutien. Et je pense que c'est presque un problème pour eux. Parce qu'il aurait pu aller à dame, sauf qu'à un moment, les Blacks arrivent à reprendre, à le faire tomber au tout dernier moment. Et les Bocs, ils sont 15 mètres derrière et il n'arrive pas à transmettre.
Eh, Théo, tu le sais mieux que moi, la faute, elle en revient toujours au soutien qui n'est pas là. Ce n'est pas le mec qui perce l'erreur, c'est le soutien qui n'est pas là.
Mais l'autre, c'est quand même vraiment une mobilette. Il est impressionnant. Alors moi, j'ai adoré aussi devant chez les Sudaf, le rouquin Kitchoff. Déjà, il me fait rêver avec son style. J'adore et il a un abattage, le mec. Il est pas que marrant parce qu'il est rouquin. Il est exceptionnel. Et le deuxième ligne qui marque l'essai, un peu de l'espoir quand ils reviennent, Dutoit. Putain, lui, c'est le non de troisième lignal, pardon. Mais il a un physique, le 7. Il a quasiment un physique à la Hetzebeth. Il est énorme. Il est tanké, mais c'est pas possible. Donc ça, c'est quand même des joueurs que t'aimes bien voir, quoi. Moi, je trouve ça sympa. Bon, sur les noms, on a un truc marrant. Ils ont quand même leur talonneur qui s'appelle Marx. J'aime bien.
Si on peut parler rapidement des joueurs de All Black, pour moi, il y a chaque Coupe du Monde, il y a toujours un arrière All Black qui sort de l'eau. Pour moi, cette fois-ci, c'était le 14, c'est vu Rhys, si c'est bien ça. Pour moi, il a un 0 à 100 comme un Tesla, quoi. C'était vraiment incroyable où il y avait un moment où il touche la balle, il y a un Soudaf qui est à côté de lui, il fait bzzz, il est parti. L'autre, c'est un diesel, il se prend un peu de temps pour chauffer, mais le Tesla, il est parti. Donc lui, même s'il n'a pas marqué, c'était beau à voir. Je dirais aussi le numéro 5. Donc, tu en as déjà parlé, Théo, de Barrett. Oui, mais le Scott Barrett, franchement, c'est dingue.
Il marque un essai. Hein. Alors,
mais Théo ne parle que des deuxièmes lignes.
Ouais, grave.
Non, pas que, mais j'aime bien avoir un petit focus. C'est vrai. Mais d'ailleurs, il a fait un plongeon dans un but assez ridicule. On sent qu'il n'a pas l'habitude de plonger. Il s'est mis à moitié à quatre pattes pour marquer. C'était un peu grotesque.
Comment on fait pour mettre des essais, déjà?
C'est ça. Mais par contre, il a quand même des cannes parce qu'il vient au soutien de, je crois, c'est Lynyrd Brown ou un truc comme ça qui perce là le 13 et qui joue le 2 contre 1 avec lui. Il refait quand même 30 ou 40 mètres plein badin pour aller marquer. Hein. D'ailleurs, moi à l'époque, les mecs ils m'auraient repris, hein, je te le dis tout de suite. Hein.
je pense que c'était marrant parce que si le Sudaf, le numéro 7, quand il a marqué, il a fait genre 3 pas. Et, mais en fait, ces 3 pas c'était au moins 15 mètres. Scott Barrett, je trouve, il est marrant parce que je trouve que 80% de son visage, 90% presque, c'est un mâchoire.
Ouais, c'est clair, c'est la caricature. Il est un peu comme Kane. Les deux, ils ont vraiment les gueules.
Non mais hey, les gars, on a dit pas sur le physique, pas sur le physique, parce que putain, les Anglo-Saxons, ils se foutent bien de la gueule de notre Camicha sur son ouais. Cou incroyable.
Mais Camille, il nous aide pas à le défendre non plus avec sa coiffure. Il y a un sujet quand même. Faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose. Mais bon, ça le regarde.
Mais bon. Quand même, ils ont bien gagné 23-13. C'était un vrai plaisir de regarder ce match.
Dans l'équipe qui avait marqué les Blacks frappent d'entrée, je trouve que c'est vraiment ça. Pour moi, c'est le symbole du mec qui tape du poing sur la table. Tout le monde se tait en disant « Ah ouais, merde, le patron est là. » C'est un peu ça. C'est un peu l'impression que ça donne. Quoi.
Cette première samedi de rugby, franchement, super sympa. On a passé au deuxième jour avec un Italie-Nambia. Bon, j'ai quand même regardé un deuxième mi-temps, qui était assez agréable, finalement, c'est Nambia. Je trouvais l'Italie, il ne savait pas trop exactement pourquoi il menait pas par plus d'essais. Mais bon, quand même, ça s'est fini. Ça s'est fini logiquement avec un 47-22 pour l'Italie. Après, Irlande-Écosse.
Écosse-Irlande, effectivement, bah les Irlandais qui étaient favoris ont gagné 27-3. Je trouve que l'écart est un petit peu étonnant. Je pensais que les Écossais rivaliseraient un peu plus. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu pour eux vis-à-vis justement des Samoans et des Japonais qui vont les avoir dans le viseur. Et ce que j'ai trouvé, c'est que par rapport à notre équipe de France, la sérénité qui se dégage de cette équipe d'Irlande, ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire qu'ils mènent 23 à la mi-temps, les mecs, bah, ils gagnent 27-3, puis c'est tout, quoi. C'est pas la peine de se mettre à paniquer, à prendre deux essais, à devoir finir à la sirène avec un drop qui passe 3 mm derrière le truc, en se pissant dans les chaussettes. Non, à un moment, ils prennent Sexton, ils le foutent sur le banc, le mec, il regarde sa montre, ils se disent, bon, ok, quand est-ce qu'on rentre ? C'est gagné, quoi. C'est bâché. Les mecs, ils gèrent, quoi.
Ils ont une sérénité qui vient de leurs années passées, enfin
C'est ça,
de
mais je souligne juste l'écart, en fait. Je souligne l'écart. Ce qui est marrant, les Anglais, pareil, ils menaient 20 à 3 ou 19 à 3 à la mi-temps. C'est marrant, c'était quasiment les mêmes scores à la mi-temps, des trois équipes Irlande, France. Et... Mais regarde les deuxièmes mi-temps qu'on fait, nous, quand les autres sont juste en gestion, quoi. Voilà.
Ouais. C'est dommage parce que j'ai trouvé que l'Écosse, quand même, c'est une équipe que j'ai bien aimée. Pendant les deux matchs contre la France, je trouve qu'ils ont des pépites. Ils ont des Hamish Watson, donc malheureusement, qui était blessé ce match-là. Donc je pense pas qu'on va la revoir pour ce Coupe du Monde parce qu'il était blessé au genou. Ils ont Stuart Hogg, ils ont Darcy Graham et tout ça, mais c'est dommage de les voir.
Ils ont une super belle charnière, mais là, visiblement, ils sont quand même passés au travers dans l'engagement. Je veux dire, c'est un peu inacceptable de perdre 27 à 3 contre ton voisin comme ça sur le match qui est le gros match de la poule. Bon, là je pense qu'ils vont se faire vraiment secouer par Townsend et peut-être qu'ils vont faire un deuxième match bien meilleur. Voilà.
Oui, temps, j'espère, parce que quand même c'est pas facile leur
poule. Ouais, ils avaient sans doute pas décidé de gagner absolument ce match-là, mais ça s'est peut-être un peu trop vu, quoi. Ils avaient peut-être décidé de faire l'impasse ou de le perdre avant de rentrer sur le terrain, ce qui est jamais bon, quoi.
Bon, le dernier match de dimanche, on avait Angleterre contre Tonga, donc un 35 à 3, c'était marrant parce que je me suis posé la question sur les paris et en fait il y avait des choses jusqu'à 43, 40, 45 points d'avance pour l'Angleterre, donc finalement Tonga, je suis pas sûr s'ils ont fait un bon match ou pas, mais ils sont pas si loin que ça finalement, mais 35
Alors,
à 3
moi,
quand même.
J'étais quand même assez déçu sur ce match-là parce que j'ai pas vu mon remplaçant rentrer avec sa barbe de légende.
Ah oui.
Sillonné dans les Anguilles, je me rappelle plus là. Dont je vous ai parlé l'autre fois, il n'était pas là.
Ouais. Donc tu as fait un superbe travail.
Une palette graphique, attention.
Superbe palette graphique.
Sur la page Facebook, là, c'est exceptionnel.
Elle est
c'est
parfaite.
Exceptionnel. Non, par contre...
N'hésitez pas à regarder notre page Facebook, Instagram et Twitter.
Les Tonga, je me suis un petit peu demandé si c'était la même compo que l'équipe qui a joué contre les Blacks, parce que franchement, ils n'ont pas démérité du tout, et ce n'est pas une équipe qui a l'air de prendre 90 points, quoi. C'est-à-dire que contre les Blacks, ils ont pris 92 à 7 il y a 15 jours. Là, ils ont perdu effectivement 35 à 3, mais ils ont vraiment rivalisé. Alors, c'est vrai que les Anglais, tu as l'impression qu'ils ont fait un peu le service minimum, et puis ils se sont dit ça va passer tranquillement. C'est effectivement passé relativement tranquillement. Mais attention comme ils se sont fait rentrer dedans. Et nous, contre les Tongiens, ça va faire... je ne sais pas si vous avez vu le plaquage du numéro 7, là, le Tongien, Capelli sur
Oui.
Ah, comment il s'appelle, les deux frères, là, Vunipola, celui qui joue 8. Il lui a foutu un plaquage. Alors, Capelli, ça fait un peu Rital comme nom, mais ce n'est pas du tout un Rital.
Oui, c'est ce que j'allais dire,
c'est
en plus, mais je ne sais pas.
K-A-P-E-L-I, mais il n'est pas Rital, mais il est arrivé comme une Ferrari. Il te l'a pris dans le buffet. L'autre, il a fait 4 mètres en arrière. Et Billy Vunipola, ça ne lui arrive quand même pas souvent.
Donc, je pense.
Rien que pour ça,
c'est clair.
Je pense que les Tonga, ils ont mérité de figurer très correctement aujourd'hui.
Après, pardon, petite parenthèse, mais tu parlais du match de prépa là, contre les All Blacks,
ouais.
Du Tonga qui a pris la saucée.
Ouais.
En vrai, ça rappelle quand même surtout que les matchs de préparation, ça ne veut pas dire grand-chose parce que les scores ne comptent pas beaucoup
oui.
En fait, les mecs, leur but, c'est d'arriver préparé pour la Coupe du Monde.
Oui, oui. Enfin, 92 quand même, au bout d'un moment, ça compte.
C'est-à-dire que... Il y a un moment quand la branlée dépasse.
Moi je te dis, ouais, pour moi compte. Ça devrait être interdit au-delà de 70 en match international.
On arrête, on va boire des bières, 70 pions,
c'est
fini, on se retrouve. Ouais.
Bon, on a quand même passé un super week-end avec des super matchs, je trouve. C'était vraiment un plaisir de retrouver toutes ces équipes. Donc si on regarde la semaine qui vient, donc on a quand même Pays de Galles, Géorgie, nous avons aussi Italie-Canada, pourquoi pas, l'Angleterre-USA, ça va être un super match, parce qu'ils ont quand même bien joué il y a quelques années. It's going to be fantastic.
Et puis il va y avoir aussi Argentine-Tonga, et
oui.
Là, pour le coup, ça devient le match complètement de la mort pour les Argentins. Ils ne devraient pas perdre, mais attention, parce que les Tongiens, ils sont tellement physiques, que contre moi j'ai trouvé quand même les Argentins assez empruntés, notamment derrière, je les ai pas trouvés bons, donc s'ils rivalisent devant sur un malentendu, ça peut être direction Buenos Aires vite fait, hein.
Et mine de rien, samedi il y a Japon-Irlande, c'est que ça reste quand même un match que j'aimerais bien voir. J'ai envie de voir cette équipe de Japon. Est-ce qu'ils...
Japon, mais ils vont se faire
non mais attends, c'est chez
là,
eux,
il faut le voir, c'est chez eux, et là c'est pour eux, pour ça c'est le match de la mort pour eux.
Ouais. Donc Charlie, la semaine dernière, nous avons parlé d'une émission que tu voulais prendre le temps pour nous expliquer un peu plus.
terrain favorable qui est sponsorisé par la Société Générale, évidemment, mais qui est formidable à voir. La saison 3 est sortie il y a 2 semaines, qui est absolument à voir. Les 2 premières saisons étaient très axées, ils mettent en valeur, si tu veux, l'humain dans le rugby. Donc les 2 premières saisons étaient très rugby amateur. Là, dans la 3e saison, c'est plus international, c'est un peu différent, ça va partout, ça va en Écosse, ça va en Inde, ça présente le rugby féminin en Inde, et c'est très humain, c'est très dans l'amateurisme, et ça présente beaucoup l'humain. Là, dans la dernière saison que vous allez voir, sous mes conseils avisés, mais si vous jetez un coup d'œil à la saison 3, là, c'est très international, ça va partout, mais vous allez en apprendre beaucoup sur les humains que sont les légendes du rugby que nous connaissons. Régalez-vous, voilà, c'est mon petit conseil.
Bon, les gars, une chose c'est sûr, c'est que je pense qu'on est tous contents que le Coupe du Monde est là. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut regarder des matchs super tôt le matin, hein, ça c'est toujours sympa. Comme ça, on a la journée pour faire plein d'autres choses, comme les siestes. Donc merci de nous avoir suivis sur Pack de Potes de cette semaine. Nous sommes vraiment contents que ce Coupe du Monde a démarré. Revenez la semaine prochaine pour que nous puissions regarder tous les matchs, nous puissions parler de tous les matchs passés, mais aussi de la semaine suivante. Donc Australie, Pays de Galles, Écosse, Samoa et bien sûr la France contre les États-Unis.
Ouh, ça va être une grosse affiche, ça. Ça sent le soufre, là.
Vous pouvez nous suivre sur tous les médias sociaux, donc Instagram, Twitter et notamment Facebook. N'hésitez pas à nous laisser un mot. Merci à tout le monde. Merci, Charlie.
Merci à toi. Je suis heureux.
Merci, Théo.
Ouais, salut à tous. À la semaine prochaine. On a dépassé les 1250 écoutes, hein, les gars. C'est quand même beau.
Allez, bon semaine et bon rugby. Bon coup de monde. Un bisou, à bientôt, les gars.
Ciao, les gars.
OK, bye-bye. Ciao.